Et on va s'intéresser avec Daniel Haber ce matin aux relations entre les États-Unis et Israël, ainsi que sur la notion d'analyse stratégique. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme chaque semaine, pour converser autour de la géopolitique mondiale. Cette semaine, Daniel Haber, il y a eu un thème central autour des relations internationales, c'est justement la relation entre les États-Unis et Israël. Alors pour l'instant, pas de cessez-le-feu, on a l'impression qu'on en est loin, il y a de nombreux appels au cessez-le-feu. Quelle est votre lecture de cette situation?
Oui, on est étonné parce que ce cessez-le-feu devait arriver à tout moment, notamment avant le Ramadan. Ben non, il n'y arrive pas. Et vous avez raison de poser la question par l'éclairage des relations entre les États-Unis et Israël, parce que c'est la seule qui compte, et pour Israël et au fond pour le monde, parce que si vous voulez, tous les autres pays font entendre leur voix, mais Israël n'a pas besoin de les écouter parce qu'il n'y a pas derrière les vocalises, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'action. Au fond, les seuls qui peuvent à la fois agir et dire et agir sont les Américains. Donc oui, cette relation, il faut un tout petit peu l'éclairer, et profitons de ces conversations de ce matin pour en parler. Il y a quatre points qui doivent éclairer la relation entre ces deux pays. La première, c'est qu'elle est ancienne. C'est 50 ans maintenant de relations, depuis 1973, depuis la guerre de Kippour, depuis que Kissinger entraînait Nixon dans une aide finalement qui a duré jusqu'à aujourd'hui et qui est, ça c'est le deuxième point, de plus en plus étroite. On peut même parler aujourd'hui de quasi-alliance. Je rappelle qu'il n'y a pas d'alliance. Traité d'alliance, il y a rien qui garantisse sur un papier que les États-Unis viendront toujours à l'aide d'Israël, mais tout ce qui s'est passé depuis 50 ans et que je vais rappeler montre que c'est une quasi-alliance. D'abord parce que Israël est pour les États-Unis précieux. C'est au fond la marque de la présence américaine au Moyen-Orient sans que les Américains soient obligés d'y mettre des troupes. Donc c'est un avantage extraordinaire pour les Américains. C'est la contribution israélienne à cette alliance. La deuxième, c'est que les relations commerciales et aussi les relations technologiques sont ceux de partenaires comme celles qui existent à l'intérieur de l'Union européenne ou d'un marché commun. C'est le même marché, ce sont presque des pays, quelquefois on dit Israël, c'est le 51e État américain. Non, mais sur le plan commercial et technologique, presque. Donc des alliés de fait. Troisième point, c'est vrai, ces pays n'ont pas la même vision stratégique, ni géopolitique, ni régionale. Sur le plan géopolitique, on voit bien par exemple que Israël ne suit pas les recommandations américaines dans sa relation avec la Chine, elle la voudrait plus étroite. Bon, et quant à la relation régionale, ça c'est le point crucial. Les Américains n'ont jamais cessé de promouvoir la solution à deux États, une solution que tous les experts, qu'ils soient pour ou contre Israël, pensent assez irréaliste, en tout cas à court terme. Et puis le dernier moment, c'est que c'est ce moment que nous vivons, ce moment de crise, où on voit là que les différences stratégiques se traduisent par des différences tactiques et qui sont apparentes, visibles et qu'il faut gérer. Alors juste un mot pour comprendre cette différence actuelle. Au fond, aujourd'hui, les États-Unis apparaissent comme un État pressé de trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'une escalade. Ils ont peur d'une escalade qui les obligerait à s'impliquer directement, militairement, et en pleine campagne électorale. Donc c'est voilà les motivations américaines. Et donc ils voudraient tirer un trait sur cette guerre de Gaza déjà, pour passer tout de suite aux choses sérieuses, pense-t-il, c'est-à-dire la résolution de la question palestinienne et surtout l'organisation d'un Moyen-Orient nouveau où Israël et les États arabes sunnites, donc l'importance de la relation avec l'Arabie saoudite, seraient liés. Et de son côté, Israël a une autre vision, qui est plutôt dans le temps, qui dit sans une victoire, alors on l'a déjà discuté, mais qui soit visible, qui soit acceptée aussi bien par les ennemis d'Israël que par les futurs partenaires d'Israël, sans une victoire nette, rien n'est possible. On peut pas envisager, dit Israël, la résolution d'une question palestinienne, la reprise des relations et du dialogue avec l'Arabie saoudite, si on n'a pas d'abord rétabli notre crédibilité militaire, parce qu'elle était existentielle. Et deuxièmement, nous avons toujours indiqué, nous Israéliens, dès le départ, que cette guerre avec le Hamas serait longue. On n'en est qu'au bout de 6 mois, et nous, on planifie plusieurs mois, une année ou plus, pour en finir avec un travail qui est compliqué, tout le monde le sait. Et puis, donc, c'est ce préalable que Israël met en avant, et c'est voilà pourquoi que ces deux pays apparaissent avec des intérêts, contradictoires.
Vous avez mentionné ce concept d'analyse stratégique de la situation. Comment on gère cette différence entre les États-Unis et Israël sur cette analyse stratégique?
Alors c'est ce qu'on voit tous les jours, hein. Donc cette gestion, elle se fait du côté israélien de deux façons. D'abord, faut se montrer déterminé. Et donc ce n'est pas que le Premier ministre qui dit ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut vaincre le Hamas, c'est tout le cabinet de guerre et c'est toute la population israélienne, hein. Tous les sondages le montrent, malgré le problème des otages, il y a une unité israélienne. Et la deuxième chose qu'Israël fait, c'est, si vous voulez, se montrer convaincant auprès des Américains. Il faut constamment leur rappeler les choses essentielles. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de grandes personnalités israéliennes, que ce soit le cabinet de guerre comme Gantz qui va en Israël, que ce soit le chef lui-même du Mossad, David Barnea. Les relations sont constantes avec des dizaines et des dizaines de personnalités israéliennes qui rencontrent des dizaines et des dizaines de personnalités américaines pour les convaincre. Mais c'est surtout pour les Américains que c'est pas facile. C'est eux qui doivent gérer des intérêts dits contradictoires. Premièrement, il faut aider Israël à 100%. Biden l'a fait dès le premier jour et il continue de le faire. Il faut rappeler à nos auditeurs que l'aide américaine ne nous est pas comptée. Deuxièmement, il faut pas laisser, et ça c'est la contradiction pour les Américains, donner l'impression au monde que l'Amérique est isolée. Donc isolée, donc les États-Unis. Donc parle au monde en disant on comprend votre appel au cessez-le-feu, votre compassion, ce besoin d'humanitaire, etc. On le comprend et donc on va essayer d'y répondre. Et puis surtout, et c'est un problème donc interne, domestique, faut pas fracturer le Parti démocrate qui, dont une grande partie, on dit un quart, et a plutôt des tendances pro-palestiniennes que pro-israéliennes. Donc, c'est cette contradiction que les Américains gèrent. Alors, comment ils le font? Pour limiter leur isolement, ils ont trouvé, au fond, une voie de sortie qui est l'humanitaire. L'humanitaire, c'est la grande affaire américaine. Ça permet finalement de continuer à aider Israël militairement tout en proclamant sa compassion pour les Palestiniens. Donc on fournit de l'aide par les airs et bientôt par la mer via Chypre. Tout ça est très bien. Et on fait une pression, mais elle est vocale, sur Israël pour les enjoindre à laisser passer plus de camions, ce que Israël fait. Bien entendu, c'est pas facile à gérer, mais elle le fait. Et pour ça, pour mettre en avant cette carte humanitaire, elle met en avant deux porte-paroles constants. C'est à l'extérieur, c'est Blinken. Blinken, c'est lui qui joue le rôle de l'humanitaire pour le monde entier. Et à l'intérieur, c'est Kamala Harris, qu'on connaît pas à l'extérieur, mais qu'on connaît bien à l'intérieur, qui sera peut-être vice-présidente, candidate aux côtés de Trump, aux côtés de Biden, c'est pas encore sûr. Et elle parle à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle dit des choses comme cessez-le-feu sans condition, qui est une bêtise absolue, mais ça s'adresse. Bon, en parallèle, il faut ne pas monnayer l'aide totale à Israël. Ça, c'est le ministre de la Défense qui le fait, Lloyd Austin, c'est tout le Pentagone, et ils font ça évidemment dans la discrétion. Donc, on voit bien le grand écart. On pourrait suggérer quand même qu'il y a une troisième voie qui est choisie par les Américains pour s'en sortir, c'est d'accabler Bibi personnellement. Hein, on s'en prendre à Bibi. Alors on dit Israël est notre ami, mais il y a un homme qui ne nous convient pas, c'est Bibi, c'est lui la cause de tout. C'est facile pour Biden, qui fut le vice-président d'Obama, et donc il y a une vengeance à exercer contre Bibi quand même. Hein. Et puis parce que ça mange pas de pain. Parce que, de toute façon, Bibi, il est là, il est le premier ministre légitime, et tout le monde sait qu'on va pas changer de gouvernement en pleine guerre. Donc, si vous voulez, en naviguant entre toutes ces difficultés contradictoires, les Américains espèrent continuer à pouvoir aider Israël complètement et montrer au fond qu'ils sont à l'écoute du monde pour que, en particulier le Sud global, tous ces 160 pays globalement condamnent Israël, mais qui en bilatéral continuent à avoir de bonnes relations avec Israël, faut jamais l'oublier, presque tous. Voilà, on continue donc à naviguer entre ces intérêts contradictoires.
Ce sont des sujets que nous aborderons dans les prochaines semaines autour de nos conversations d'Annie Labert, mais nous arrivons malheureusement déjà à la fin de ces conversations d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine en plein Ramadan.